Vous écoutez, on lit pour vous.
Chez le dentiste, pour rester loin du médecin. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 mars 2026 dans La Presse. La bouche est le maillon faible du corps humain, a expliqué Alpdogan Kantarsi de l'Université du Minnesota lors du congrès annuel de l'Association américaine pour l'avancement de la science, AAAS, à Phoenix, en Arizona, en février. C'est l'une des principales portes d'entrée pour les bactéries. Elles ont plusieurs voies d'accès à partir de la bouche. Pour cette raison, les infections des gencives, aussi appelées parodontites, et les caries graves avec abcès ont été liées à une cinquantaine de maladies ailleurs dans le corps. Dans certains cas, les parodontites augmentent le risque d'autres maladies. Dans d'autres, il se peut que la parodontite soit une conséquence de la maladie, dit le dentiste de Minneapolis. Les bactéries d'une bouche en santé peuvent être bénéfiques pour le corps humain. Mais quand il y a des infections graves aux gencives ou des caries allant jusqu'à l'os, les bactéries peuvent migrer dans les organes internes par l'entremise du système gastro-intestinal, par le sang ou carrément en progressant jusqu'au cerveau, dit le docteur Kantarsi. Et l'inflammation dans la bouche affecte le reste du système immunitaire. Le risque de parodontite augmentant avec l'âge, certains patients gagneraient à avoir un nettoyage chez le dentiste tous les 2 mois, selon le docteur Kantarsi. Est-ce que les gens qui ont eu une petite greffe de gencive ont appris leur leçon et gardent de bonnes gencives sont à risque? Non, il faut une parodontite qui dure ou qui revient souvent, dit-il. Une carie avec abcès pourrait aussi augmenter le risque de maladie. Plusieurs maladies. L'un des mécanismes identifiés par le docteur Kantarsi concerne l'Alzheimer. Les bactéries pathogènes des parodontites peuvent se rendre au cerveau, où le système immunitaire les reconnaît et les attaque. Cela distrait le système immunitaire du cerveau d'une autre tâche, l'élimination des plaques amyloïdes, dont l'accumulation finit par causer cette démence. Un phénomène similaire pourrait être en cause dans la maladie de Parkinson, très souvent liée à des parodontites. Dans les cardiopathies, il est possible que les bactéries pathogènes des parodontites stimulent la formation de plaques dans les vaisseaux sanguins, ou alors l'inflammation de ces vaisseaux, qui deviennent alors bouchés. Le diabète a été la première maladie liée aux parodontites il y a une vingtaine d'années, selon le docteur Kantarsi. C'est l'un des 6 symptômes les plus importants du diabète, dit-il. Et des études ont montré que si on traite les parodontites, le diabète devient plus facile à prendre en charge. Vaccins et probiotiques. Un vaccin est actuellement testé en Australie pour prévenir les infections par une bactérie souvent présente dans les parodontites qui a aussi été liée à d'autres maladies, dit le docteur Kantarsi. Le défi de l'approche vaccinale est que des bactéries très différentes sont présentes à différentes profondeurs dans les gencives affectées, en fonction du degré d'oxygénation de la zone. Il y a moins d'oxygène dans le fond des poches dans les gencives touchées par la parodontite, dit le docteur Kantarsi. Une autre approche serait de favoriser la présence de bactéries salutaires pour la bouche et le corps humain par la consommation de probiotiques. Arthrite. L'une des maladies causées par la parodontite est l'arthrite rhumatoïde. L'arthrite rhumatoïde survient quand le système immunitaire attaque certaines protéines des articulations, explique Felipe Andrade, un rhumatologue de l'Université Johns Hopkins, qui avait aussi une présentation à la séance sur le microbiote dentaire de l'AAAS. Les protéines attaquées ont en commun d'être capables de citrullination, un processus moléculaire. Nous voyons que dans la parodontite, les bactéries buccales pathogéniques sont aussi capables de citrullination. Le processus moléculaire de la citrullination est important dans la réaction auto-immune de l'arthrite rhumatoïde. Le Dr Andrade estime que cette découverte pourrait expliquer pourquoi certains patients sont arthritiques malgré l'absence d'une infection dans l'articulation touchée. Cette maladie est considérée comme auto-immune dans la mesure où le système immunitaire, stimulé par une infection, réagit trop fort et attaque les cellules humaines saines. Selon le modèle proposé par le rhumatologue de Baltimore, des protéines buccales pathogènes, capables de citrullination, envahissent la bouche lors d'une parodontite, ce qui pousse le système immunitaire à les attaquer. Le système immunitaire devient alors très sensible aux protéines capables de citrullination et attaque des protéines semblables dans certaines articulations. Selon le Dr Andrade, les parodontites seraient la cause d'entre 30 et 40 % des cas d'arthrite auto-immune. Il veut maintenant comprendre pourquoi les parodontites ne mènent pas toujours à l'arthrite, ce qui est beaucoup moins fréquent. Intestin. D'autres maladies, souvent immunes, les inflammations de l'intestin, pourraient aussi être liées à des bactéries pathogènes des parodontites. Ces bactéries buccales pourraient même être transmises de la mère à son enfant, selon un microbiologiste spécialiste de gastro-entérologie, Nobuhiko Kamada, de l'Université du Michigan, qui présentait ses travaux à Phoenix. Pour le moment, nous n'avons pas établi de lien causal chez l'humain entre le microbiote buccal et les inflammations de l'intestin ou le cancer colorectal. Mais il y a une association, explique M. Kamada. Un lien causal a été trouvé chez la souris, notamment dans le cas de la transmission mère-enfant. Sur la base de ses travaux menés sur des souris, M. Kamada a identifié deux mécanismes probables pouvant lier la santé buccale et intestinale. Soit les patients atteints d'inflammation de l'intestin sont plus vulnérables aux bactéries pathogènes des parodontites qui arrivent dans l'intestin, soit ces bactéries buccales poussent le système immunitaire à produire des molécules inflammatoires qui se retrouvent dans l'intestin. Il est trop tôt pour estimer la proportion maximale des cancers et inflammations chroniques de l'intestin qui sont dues aux parodontites. Mais comme ces problèmes buccaux sont très fréquents, il vaut la peine de bien étudier la question, dit-il. Et on pourrait envisager un dépistage des cancers ou inflammations intestinaux chez les patients ayant des parodontites ou certaines bactéries buccales. Il est plus facile d'accéder pour le dépistage à la bouche qu'à l'intestin. En savoir plus? Source, Université du Minnesota. 700. Nombre de types de bactéries qui vivent dans la bouche. Deux fois. Augmentation du risque de démence chez les patients atteints de parodontite chronique. Source, Statistique Canada. 51%. Proportion des adultes canadiens ayant une parodontite chronique. C'était chez le dentiste pour rester loin du médecin. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 mars 2026 dans La Presse.
Québec veut casser le réflexe médecin en santé et redorer le blason des CLSC. Un texte de Marie-Michèle Sioui, paru le 27 mars 2026 dans Le Devoir. Pour améliorer l'accès aux soins de première ligne, le gouvernement Legault veut casser le réflexe qu'ont les Québécois de se tourner vers un médecin quand ils ont un problème de santé, en misant davantage sur les soins de proximité. Dans la politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne qu'elle a dévoilée récemment, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, propose un retour vers les années 1970. À cette époque, les centres locaux de services communautaires, CLSC, ont été créés et devaient devenir la porte d'entrée du système. Comme l'a révélé Le Devoir, jeudi le 26 mars 2026, le gouvernement retourne à cette philosophie et veut désormais rattacher chaque Québécois à un territoire de CLSC pour qu'il reçoive des soins près de chez lui. Cette proposition assure à tous les Québécois, y compris ceux en situation de précarité ou d'itinérance, un point d'ancrage leur permettant de faire valoir leurs besoins et d'accéder aux soins et services nécessaires, affirme la politique de 95 pages, présenté devant près de 300 partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. Les CLSC doivent devenir la plaque tournante de la première ligne, a déclaré la ministre Bélanger. Elle a dit avoir obtenu 10 millions de dollars pour que Santé Québec commence à concrétiser cette vision au cours de la prochaine année, par le biais d'un plan d'action. Pour rappel, Le Devoir a rapporté en janvier 2026 que Mme Bélanger reportait le déploiement d'un projet visant à faire des CLSC la porte d'entrée principale pour les services aux aînés. On renverse l'entonnoir. La ministre souhaite que, d'ici 5 ans, 150 CLSC puissent offrir 205 points de service aux Québécois. Ces derniers pourraient donc cogner à leur porte pour divers besoins, en santé mentale, en protection de la jeunesse, en itinérance, etc., ou encore se tourner vers un médecin lorsque cela est nécessaire. En clair, on renverse l'entonnoir, a résumé Maude Raymond, présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées, IPS, du Québec. Avant, c'était le médecin en premier. Et ensuite, on dispatche aux autres professionnels. Là, on parle de plusieurs portes d'entrée pour aller chercher le patient dans son milieu par l'intermédiaire de divers professionnels. Il faut briser l'idée que ça prend un médecin de famille pour tous. C'est ancré dans l'inconscient collectif et il faut déconstruire ça, a également déclaré Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières du Québec, qui a dit avoir longtemps attendu cette politique. Des critiques contre les GMF. La proposition du gouvernement critique à quelques reprises le modèle des inscriptions individuelles à un médecin, faites dans la grande majorité des cas, 83%, au sein de groupes de médecine de famille, GMF. Le budget de 6,7 millions alloués aux GMF lors de leur création en 2002 est passé à 324 millions de dollars en 2024. Or, ce modèle n'a pas réussi à combler les besoins de l'ensemble de la population québécoise. les taux d'inscription individuelle ont atteint un sommet à 82 % en 2019 pour ensuite diminuer. La politique met en avant l'inscription collective favorisée par le gouvernement Legault. En cela, elle contredit un rapport d'experts sur la première ligne qui avait fait valoir en 2025 les vertus de l'inscription individuelle pour la continuité des soins et de la relation avec un professionnel de la santé. Elle fait également fi d'un avertissement récent du Collège des médecins qui juge que l'inscription collective d'un patient ne garantit pas en soi une prise en charge médicale ni un suivi réel. Le Collège l'a d'ailleurs relevé dans sa réaction. Nous sommes très déçus que la politique ne prévoit pas une association spécifique entre le patient et un médecin ou une IPS, a écrit son président, le Dr Maurice Gaudreau. De nouveaux incitatifs financiers. En dépit de ces critiques au sujet des GMF, la politique ne propose pas de leur faire mettre la clé sous la porte, mais bien d'encourager un travail interdisciplinaire entre ces cabinets, souvent privés, et le reste du réseau. Le même document souligne cependant que le modèle dominant de paiement à l'acte s'avère souvent incompatible avec le renforcement de la collaboration interprofessionnelle. Il est donc suggéré, pour inciter les médecins à travailler de pair avec d'autres professionnels, d'avoir recours à des incitatifs financiers. La politique n'a pas non plus pour but d'encourager les médecins à aller travailler en CLSC, a dit la ministre Bélanger. Je ne pense pas que ça va changer l'orientation du lieu de pratique des médecins, a aussi affirmé le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le Dr Marc-André Amiot. Une politique saluée et décriée. Les grandes lignes de la politique ont pour la plupart été saluées par les diverses organisations en santé. C'est encourageant. Enfin, on parle de proximité, de vision d'ensemble, de responsabilité envers une population. Les CLSC sont présents partout au Québec et bien ancrés dans leur territoire. Ça, c'est positif, a notamment souligné la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Julie Bouchard. La directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers, Sylvie Tremblay, a réclamé des actions concrètes. « Nous, ce qu'on veut, c'est que ça avance rapidement », a-t-elle lancé. À l'Assemblée nationale, les oppositions ont réservé un accueil plus sévère à la proposition. « Beaucoup de principes, peu de garanties concrètes de résultats », a indiqué le député libéral Mansef Deradji, en critiquant notamment son manque de moyens, de cibles et d'échéanciers clairs. Après 8 ans à démanteler la proximité, à centraliser le réseau, à faire du mur à mur avec Santé Québec et à laisser la première ligne s'affaiblir, la CAQ découvre soudainement les CLSC, a ironisé Guillaume Cliche-Rivard de Québec solidaire. Dans une critique similaire, le député péquiste Joël Arsenault a affirmé que la CAQ fait une volte-face complète en redécouvrant enfin l'existence des CLSC. C'était « Québec veut casser le réflexe médecin en santé et redorer le blason des CLSC », un texte de Marie-Michel Sioui, paru le 27 mars 2026 dans Le Devoir.
Votre urine contient-elle des pesticides agricoles? Un texte d'Ariane Kroll, paru le 9 mars 2026 dans La Presse. Sainte-Clotilde. Si vous vivez à proximité d'un champ, dans quelle mesure êtes-vous touché par les pesticides qui y sont appliqués? Pour y voir clair, la chercheuse Maryse Bouchard et son équipe ont recruté près de 400 résidents de 4 villages de la Montérégie. Incursion dans la plus grande recherche du genre jamais réalisée au Canada. C'est jour de cueillette à Sainte-Clotilde. Sur son comptoir de cuisine, Nathalie Fortin pose ses échantillons d'urine et de poussière tout juste sortis du congélateur avec des questionnaires alimentaires précis au verre d'eau près. Le stagiaire de recherche, Kyriam Ankou, vérifie l'heure à laquelle l'urine a été prélevée et repart en plaçant les échantillons sur de la glace sèche. Est-ce que mon sol est contaminé? Est-ce que ma nappe phréatique est contaminée? Est-ce que l'air que je respire est plein de pesticides? Ça m'intrigue beaucoup, 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 indique Mme Fortin. Lorsqu'elle a trouvé sa maison à Sainte-Clotilde, il y a une vingtaine d'années, dit-elle, elle avait conscience qu'il y avait des champs et des applications de pesticides. Mais elle pense que son désir de rester à la campagne était plus fort. Des tracteurs en train d'appliquer des produits dans les champs lui ont rappelé la réalité agricole des environs. On ne sent pas nécessairement l'odeur quand on n'est pas familier avec ça, mais il y a des odeurs vraiment spécifiques à certains pesticides, dit celle qui a étudié en horticulture ornementale. Jusqu'à quel point l'épandage de ces pesticides affecte-t-il ma nappe phréatique et mon environnement? Ça commençait à rouler dans ma tête, confie Nathalie Fortin. Elle n'a donc pas hésité à s'inscrire, avec son conjoint, à l'étude EPURA, E-P-U-R-A, exposition aux pesticides utilisés en région agricole. En tout, 386 résidents de Sainte-Clotilde, Saint-Rémy, Saint-Isidore et Saint-Michel participent à cette recherche. TDAH, QI et autres inquiétudes. Dans un sous-sol de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, à Laval, Maryse Bouchard enfile un gant isolant pour manipuler un flacon d'urine. À moins 80 Celsius, mieux vaut protéger ses mains. Les congélateurs voisins abritent des échantillons de terre, de poussière et d'eau. C'est vraiment très précieux. Ça vaut des centaines de milliers de dollars ce qui a été investi pour collecter ces échantillons, signale Mme Bouchard, professeure agrégée à l'unité d'épidémiologie et biostatistique de l'INRS. EPURA, dont elle est la chercheuse principale, est la plus vaste étude terrain sur l'exposition du voisinage aux pesticides agricoles jamais réalisée au pays. Le projet a obtenu près de 700 000 $ des instituts de recherche en santé du Canada. Il inclut des chercheurs de plusieurs universités. Spécialiste de la santé environnementale, Mme Bouchard s'intéresse depuis longtemps aux impacts des pesticides. En 2010, elle a montré que le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH, était plus fréquent chez de jeunes Américains dont l'urine présentait davantage de traces de pesticides organophosphorés. Son étude a été reprise dans de grands médias du monde entier. L'année suivante, elle a démontré que le quotient intellectuel de petits Californiens de 7 ans, dont la mère avait été plus exposée à des pesticides organophosphorés durant la grossesse, était plus faible de 7 points en moyenne. La revue Environmental Health Perspective lui a décerné le prix d'article de l'année. J'avais vraiment le goût de continuer à explorer cette question ici au Québec. L'étude montérégienne ne porte pas sur des problèmes de santé particuliers, mais sur le fait d'être exposé à des pesticides. J'ai décidé de me concentrer sur la manière dont l'exposition arrive, de façon à savoir comment on peut la diminuer, indique Mme Bouchard. Plusieurs des citoyens venus aux rencontres d'information avaient toutefois des préoccupations bien précises. Les gens qui ont des puits étaient inquiets pour leur eau. Des personnes dont le terrain donne sur un champ étaient très anxieux, a constaté la chercheuse. Le cancer, la maladie de Parkinson, les maladies neurologiques, la démence faisaient aussi partie des peurs. Trouver des alliés. Le secteur maraîcher ayant la plus grande intensité d'utilisation de pesticides, en quantité et en diversité, l'étude EPURA a choisi des villages où toutes les résidences sont à moins de 1,5 km d'un champ de culture maraîchère. Restait à recruter des participants. Dans ces communautés où plusieurs vivent de l'agriculture ou ont des producteurs agricoles pour voisins, on a voulu s'adjoindre des alliés parce qu'on se doutait que les pesticides sont un sujet délicat, explique Mme Bouchard. L'équipe a obtenu l'appui officiel de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, formé des comités consultatifs locaux et présenté le projet aux conseils municipaux. Trois d'entre eux ont appuyé Épura et incité leur population à y participer. Les citoyens qui ont levé la main ont plusieurs devoirs à faire. À cette reprise, quatre fois en été et trois en hiver, ils doivent noter tout ce qu'ils mangent et boivent dans une journée, conserver un flacon de leur première urine du lendemain, prélever de la poussière sur leur plancher et entreposer le tout au congélateur. Les chercheurs ont aussi pris de l'eau de leur robinet, de la terre dans leur cour et de la poussière en hauteur dans leur maison. Tous ces échantillons seront testés à l'Université de Sherbrooke, au laboratoire du professeur Pedro Alejandro Segura, pour 18 fongicides, 19 herbicides et 14 insecticides. Détecter les pesticides dans l'urine et l'environnement des personnes vivant près d'une culture maraîchère permettra de voir dans quelle mesure elles sont plus exposées à ces substances et de quelle façon. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs choses à mettre en relation. Est-ce que la dose vient de l'eau ou de l'alimentation? Est-ce la présence de pesticides dans leur maison? Illustre Mme Bouchard. Par exemple, si les analyses détectent moins de pesticides chez les gens qui se déchaussent toujours avant d'entrer chez eux, l'étude pourrait suggérer des moyens simples pour diminuer l'exposition. À Sainte-Clotilde, on a dit « OK, on va embarquer et on va faire partie de la solution », s'enthousiasme le maire Guy-Julien Méné. Son village a beau être zoné agricole à 98 %, le développement va bon train sur les 2 % restants. La population a doublé depuis 15 ans à près de 3 300 habitants. En campagne électorale, j'ai fait 900 portes et pour au moins 90 %, l'environnement, c'est super important, témoigne M. Méné. Je suis optimiste, il y a beaucoup de travail à faire, mais au moins la population est consciente de ce qui se passe. Les participants à l'étude Épura prélèveront leurs derniers échantillons ce mois-ci. Avec les délais nécessaires pour les analyses de laboratoire et les analyses statistiques, les premiers résultats devraient être publiés en 2028. C'était « Votre urine contient-elle des pesticides agricoles? » Un texte d'Ariane Kroll, paru le 9 mars 2026 dans la presse.